C'est une étude d'un cabinet de conseil américain. Elle dit, en substance, qu'en 2040, 60% de la viande que nous mangerons ne sera plus issue d'animaux. Ça peut évidemment surprendre, puisque quand on prononce le mot viande, on pense forcément animal. D'où viendrait-elle alors? Des végétaux. C'est une viande à base de protéines de blé, de soja ou de pois, quelques additifs, quelques colorants, et voilà. Pour paraphraser une vieille pub, ça ressemble à de la viande, mais ce n'est pas de la viande. On la trouve déjà dans les supermarchés, mais aussi dans les fast-foods. Une tech bidoche, en quelque sorte, alternative notamment à la viande rouge décriée, entre les scandales dans les abattoirs et l'élevage de moins en moins compatible avec la lutte contre le réchauffement. Pour autant, cette simili-viande est-elle la solution ? Adieu Woodstock, bonjour Woodsteak. L'avenir de la viande passe-t-il par le végétal ? C'est notre menu aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Mais comme tous les jours, on commence l'émission en ouvrant le journal, et c'est la croix qu'on feuillette aujourd'hui. Avec vous, Olivier Thalès, bonjour.
Bonjour.
Et vous nous emmenez voir le loup.
Oui, tout à fait. La croix est partie sur les traces du loup à travers les yeux et le viseur de la brigade qui le traque et le protège.
Alors c'est une brigade particulière qu'on trouve notamment dans les montagnes sur les traces du loup, qui a à la fois le droit de prélever, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de tuer des loups, mais qui est aussi censé répertorier les loups avec une sorte de mission un peu ambiguë.
Tout à fait, c'est une mission paradoxale puisque sa mission c'est de défendre une espèce protégée, tout en tirant sur les loups qui s'approchent un peu trop près des troupeaux et qui attaquent régulièrement les mêmes troupeaux. Donc ces agents naviguent dans cet étrange paradoxe entre empathie pour le berger et admiration pour le loup, sans même avoir une certitude absolue sur l'efficacité des tirs et l'efficacité de leur mission.
C'est vous qui avez suivi cette brigade donc sur le terrain. Quelle sensation vous rapportez de cette expérience ?
C'était une expérience étrange, une expérience de patience. On passe des heures à l'affût à observer la faune sauvage en France, à travers les yeux d'une caméra thermique qui nous permet de voir la nuit en noir et blanc. C'est assez impressionnant de voir le nombre d'animaux qui circulent la nuit tout à côté de chez nous, auprès des villages, dans les prés, dans les lisières des forêts. Et on traque comme ça pendant des heures, on attend le loup qui va venir peut-être une demi-seconde, puis repartir. C'est une épreuve de patience qui nous relie à la nature, finalement.
Ce que vous racontez, c'est que, bon, alors évidemment, on trouve le loup, notamment dans les massifs alpins, mais pas seulement, en Seine-et-Marne, autour des villes, pas très loin de Grenoble, notamment.
Tout à fait, le loup, qui est une espèce protégée, est en train petit à petit d'étendre son territoire. Il est présent aujourd'hui dans au moins un tiers des départements où on constate qu'il existe des meutes. Mais il passe, même s'il reste pas forcément, dans d'autres territoires, notamment des territoires plus à l'ouest. On l'a aperçu en Normandie, on l'a aperçu dans les Pyrénées occidentales, au Pays Basque, on l'a aperçu en Vendée. A priori, il n'y a aucun territoire où le loup ne pourrait pas retrouver sa place, comme c'était le cas au début du 19e siècle, avant que l'homme se mette à le traquer et l'éliminer systématiquement.
Ce que vous racontez aussi, c'est la fascination qu'éprouvent ces chasseurs de loups, cette brigade que vous avez suivie, pour cet animal qu'ils trouvent tous très intelligent.
Oui, c'est ce qui ressort. Et c'est vraiment des gens qui sont passionnés de la faune sauvage, du loup en particulier, qui pour eux est au sommet de la faune, et l'animal le plus intelligent qui existe sur notre territoire. Et en même temps, ils n'hésiteront pas, quand ils l'ont face dans le viseur, à tirer sur le loup qui attaque régulièrement le troupeau. Donc j'ai essayé de comprendre cet étrange paradoxe, qu'est-ce qui se passe dans leur tête, ces gens qui sont à la fois fascinés par le loup et qui lui tirent dessus. Mmh. Et à travers ce paradoxe, c'est bien finalement un paradoxe de notre société française, où d'un côté on est engagé sur la protection du loup, et de l'autre côté on lui tire dessus quand on considère qu'il s'attaque trop régulièrement aux troupeaux des éleveurs et qu'il nuit finalement au travail des éleveurs au point de remettre en cause de travail d'élevage au grand air.
C'est une espèce protégée par la Convention de Berne sur la vie sauvage et puis un arrêté ministériel du 22 juillet 1993. Et ce que vous racontez aussi, c'est que le loup est capable, quand il attaque en meute, de détourner avec l'un des loups l'attention de l'éleveur pendant que les autres loups fondent sur les moutons.
Oui, alors plus que l'attention de l'éleveur, ça va être l'attention des chiens, puisque le loup va s'adapter dans toutes les à peu près toutes les situations. Il va essayer de comprendre comment passer à travers un grillage électrique, comment passer à travers un double filet, comment faire que le troupeau de moutons va casser lui-même le double filet de protection pour se jeter dans les pattes du loup, comment, effectivement, quand il y a une meute de chiens de protection, 5 chiens de protection, en attirer les 5 d'un côté, et pendant ce temps, le reste de la meute attaque les brebis. C'est un animal extrêmement intelligent dans sa manière de s'adapter aux proies qu'il chasse.
Alors, aux dernières nouvelles, la France compterait aujourd'hui 624 loups. Il y en avait 580 l'année dernière. Eh bien, merci, Olivier Thalès, sur les traces du loup. C'est un reportage, long reportage, à retrouver sur le site du journal La Croix. Merci à vous, bonne journée.
Merci.
Victor Hugo, quand il était à l'Assemblée, il n'en avait rien à foutre du steak de soja, clairement. Donc là, JB, il s'est dit, c'est bon, je m'y colle. Allons-y avec lui, à quoi sert son amendement, qui a été adopté, hein.
L'amendement, c'est fait pour interdire l'appellation steak ou saucisse à des produits qui ne contiendraient pas que de la viande.
Alors évidemment, ça pose des problèmes. Problème que j'ai soumis quand même à JB.
Par exemple, les tomates cœur de bœuf, comment on fait ?
La tomate cœur de bœuf, c'est une appellation. Alors, c'est vrai qu'on se doute quand on voit la forme de la tomate que c'est pas vraiment un cœur de bœuf.
Ah ben moi, j'en achetais pas parce que je suis végétarien. Je pensais que c'est un cœur de bœuf.
Bah, c'est dommage. Non, c'est pas un cœur de bœuf.
Il faudrait pas faire un amendement pour interdire ça.
Peut-être. On va peut-être y réfléchir.
Bah, et puis il y a pire que ça. Les fruits de mer.
Les fruits de mer. Oui. C'est effectivement des animaux. Oui.
Bah, c'est vachement trompeur, non ?
Bah, faut les appeler des animaux de mer. Je sais pas. Moi, sauf que moi, c'est juste de pas tromper le consommateur et qu'il toutes les infos.
Franchement, qu'est-ce qu'il fout le législateur ? Il y a urgence. Jaurès, reviens là, oh !
Le taquin Guillaume Meurice qui interrogeait JB. Donc JB, c'est Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche. Il est l'auteur d'un amendement pour interdire à la viande d'origine végétale de prendre le nom de saucisse, nuggets, steak. La loi a d'ailleurs été votée, elle met un certain temps avant d'être appliquée. Et peut-être que la langue française nous manque d'un mot, parce que finalement, il faudrait peut-être pas donner le mot de viande. Trois invités pour se poser la question aujourd'hui dans ce débat de midi. Arnaud Daguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien chef étoilé, et les auditeurs de France Inter vous connaissent bien puisqu'on vous entend régulièrement dans On va déguster avec l'ami François-Régis Gaudry. Antoine Péchu-Pochès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur marketing et communication chez Les Nouveaux Fermiers, donc c'est une entreprise qui fabrique ces produits simili-carnés. Et puis Angélique Houlbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne nutritionniste et les téléspectateurs de France 5 vous connaissent forcément puisque on vous voit aussi régulièrement dans le magazine de la santé. Alors c'est vrai que quel mot il faudrait donner, si ce n'est le mot viande, à cette viande végétale, Arnaud Daguin ?
Ah ben voilà, vous m'interrogez sur du vocabulaire. C'est pas gentil. Je ne sais pas. En tout cas, les ersatz, moi, ça m'a jamais plu, et le fait de faire semblant non plus. Et donc, je pense que ces produits qui doivent avoir une valeur, il n'y a aucun souci là-dessus, nutritionnelle, une valeur aussi qu'on doit pouvoir mesurer en termes d'écologie et tout ça, ces produits-là devraient avoir leur propre champ lexical. Et je pense que ça arrivera, forcément. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que pour les lancer dans le commerce, eh ben, on fait semblant que ça soit de l'animal. Mais on fait semblant pas trop loin, on fait semblant jusqu'au point de quelque chose de déjà extrêmement touché comme viande. Hein. La saucisse, la chipot, la merguez, le steak haché. Enfin, on est sur des choses qui sont déjà un petit peu tripotées chez l'animal. Évidemment, on ne va pas sortir tout de suite une côte de bœuf végétale. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Peut-être que ça arrivera d'ailleurs. Mais je ne suis pas sûr que ça soit là le fond du problème, en fait. Si je peux me permettre une petite remarque là-dessus. Je pense que déjà, on devrait arrêter d'utiliser le terme viande en général, parce qu'il n'y a pas une viande. Il y a beaucoup d'animaux qui sont élevés de façon très diverse, et ils ont tous ces animaux et ces élevages des bilans extrêmement différents au regard de nos enjeux actuel. Et notre avenir, il est dessiné par ce que nous mangeons, comme vous le savez. Et donc, le fait de produire des choses qui effectivement ressemblent à de l'animal, mais qui n'en sont pas, eh bien, ça, moi, ça me pose non seulement aucun problème, mais en plus, je pense que toutes les propositions sont bonnes. En revanche, le regard qu'on a sur l'animal, ça, c'est quelque chose que on doit absolument documenter pour tout le monde. Les enjeux liés à l'élevage doivent être connus de tout le monde.
Alors, il se trouve que Antoine Béchu-Pochaise, qui travaille pour les nouveaux fermiers, est venu les mains pleines. Et vous avez là devant vous deux spaghettis bolognaises, l'un avec de la vraie viande, l'autre avec de la fausse viande. Je vous propose de les goûter, hein, Arnaud Daguin, vous qui êtes ancien chef étoilé. Vous nous dites si vous arrivez à faire la différence.
Je suis pas si ancien que ça.
Et puis, pendant ce temps, j'en profite pour me tourner vers Angélique Houlbert pour lui demander s'il y a une différence justement nutritionnelle entre ce qu'on appelle ces similés viandes et la vraie viande.
Ah oui. Oui, effectivement, en termes nutritionnels, on peut avoir une grosse différence, surtout en termes de protéines. Alors, c'est pas forcément le cas pour tous les produits, puisqu'effectivement, on trouve dans les magasins des produits qui ont des teneurs en protéines assez proches d'un steak, par exemple. Un steak haché, par exemple, que vous demandez à votre boucher, 100 grammes, va apporter une vingtaine de grammes de protéines. Et effectivement, on peut trouver dans les supermarchés facilement des simili-carnés qui ont cette teneur-là. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Et là, vous m'interrogez juste sur le terme nutritionnel, pas exactement sur ce qu'il y a véritablement dedans. Je pense
mais
qu'on
on
va,
peut aussi on aller sur la composition, si
mais
vous voulez.
C'est vraiment deux choses différentes. Voilà.
C'est assez lié, finalement.
Ah oui et non. Alors, en fait, vous m'interrogiez sur les teneurs nutritionnelles. Donc, en fait, nous, c'est plutôt quand vous regardez un packaging, c'est le tableau nutritionnel, hein, qui est parfois totalement incompréhensible par la plupart de tout le monde, mais... Ça, c'est une chose. Mais comment vous devez choisir un produit, c'est surtout ça. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est tout l'objet de mes chroniques au magazine de la santé. C'est comment on choisit un bon produit au supermarché, parce qu'il en existe. Et qu'est-ce qu'on regarde à chaque fois ? La liste des ingrédients. Ça, c'est ce que vous devez regarder en priorité.
Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder et de quoi il faut se méfier quand on parle de ces viandes, de ces simili-viandes, de ces viandes végétales ?
Dans certains produits, on va en fait retrouver non pas des aliments, mais des ingrédients. Alors, je fais vraiment bien la différence parce qu'on peut avoir des simili-carnés, entre guillemets, des petites galettes composées de légumineuses, par exemple. Donc, votre premier ingrédient, ça va être des lentilles, par exemple, ou alors des haricots blancs. Voilà. Donc, ça, c'est un aliment. Et on fait bien la différence quand vous lisez la liste des ingrédients et que vous voyez juste « protéines de ». Alors, protéines de pois, protéines de soja, protéines de fèves, protéines de blé, protéines de... Ce n'est plus un aliment, c'est un ingrédient. Et ça, c'est vraiment toute la différence.
Et quelle est justement, quelle est la différence pour vous ?
On n'est plus dans des vrais... On parlait un peu de vrais, faux. J'entendais Arnaud dire des vrais aliments, des vraies viandes, des fausses viandes. Là, c'est pareil, on n'est pas dans un vrai aliment, on est vraiment dans un ingrédient. C'est-à-dire que... Alors, nous, on appelle ça des ingrédients qui sont issus du cracking. Cracking, craquage, fractionnement, appelez ça comme vous voulez. En fait, on part bien de fèves, de soja, de blé, mais en fait, on va le craquer, ce grain de blé. Et normalement, il y a toute une matrice qui est super intéressante. Et là, on va le craquer et on va en faire d'un côté du son. Et puis de l'autre côté, effectivement, on va récupérer ce gluten, par exemple, pour le blé. On va récupérer que les protéines. Donc, en fait, on déstructure totalement la matrice d'un aliment, d'un vrai végétal, et on n'en retire qu'un seul ingrédient. Voilà. Donc, ça, il faut vraiment vous méfier. Mmh. Et ça, on n'a pas ça dans nos placards.
Antoine Béchu-Pochaise,
dans
les barquettes que vous nous avez apportées aujourd'hui, ce sont des aliments ou des ingrédients ?
Alors... ça peut être, si on suit la définition qui vient d'être proposée, effectivement, on est bien sur des protéines issues de végétaux. Nous, on va particulièrement utiliser la protéine, par exemple, du pois. Effectivement, on vient
selon la méthode du cracking dont vient de nous parler Angélique Houlbert.
En tout cas, effectivement, où on va récupérer cette protéine pour derrière l'assembler et pouvoir reproduire la texture, le goût d'une viande dans nos produits.
Arnaud Daguin, vous en avez encore un petit peu sur la, sur la moustache. Alors, verdict, vous avez goûté les deux, est-ce que vous avez pu faire la différence?
Oh, je pense que oui. Enfin, il me semble que la viande est plutôt là et que ce qui n'est pas la viande est plutôt là. Je ne sais pas si c'est, ouais, si c'est ça. Voilà. Ceci, ça ne fait pas grande différence parce qu'à ce point-là de tripotage, ça pourrait être du kangourou ou du cuir de baleine. On ne sent que, en fait, la cosmétique alimentaire, là. C'est-à-dire, on voit bien la construction de quelque chose qui fait semblant de ressembler à une très vieille recette de recyclage de morceaux de viande inutilisables qu'on appelle la bolognaise. Parce que c'est ça, quand même, hein. Et c'est l'économie circulaire de la cuisine, c'est ça. Je suis entièrement de l'avis d'Angélique, là, qui vient de dire quelque chose d'essentiel. Elle a parlé de matrice. Il faut quand même qu'on n'oublie pas qu'on est issu du vivant, et il serait quand même extrêmement prétentieux et même vain de prétendre pouvoir se nourrir convenablement, entre guillemets, avec des fragments et des composés. Or, c'est ce qui nous arrive de plus en plus souvent, avec les produits laitiers notamment, et avec plein d'autres trucs. On sait aujourd'hui que la bouffe ultra-processed, comme on dit en anglo-saxon, n'amène pas l'ensemble de ce dont nous avons besoin, car il semblerait que pour qu'on ait cet ensemble-là, eh bien, c'est mieux de rester dans la matrice du vivant. Alors, ça a l'air très ésotérique d'en parler comme ça, mais ça se comprend quand même un peu. Je pense que la nature, le vivant font les choses comme il faut. Quand une vache fait du lait, quand une femme fait du lait, elle fait quelque chose qui est de l'ordre d'un aliment et qui est d'une complexité rare, avec énormément de composants là-dedans, qui interagissent tous et qui sont tous reliés les uns aux autres. Et je pense que c'est, même si la science est aujourd'hui très avancé, même si nos savants sont très très forts, je pense que c'est extrêmement prétentieux de penser qu'on peut reproduire cette complexité du vivant en prenant des aliments de base, en les craquant comme du pétrole, en faisant des fragments et des composés, en recomposant ça en fonction de règles qu'on a pensé comprendre au regard de la nutrition. Voilà ma position sur le sujet.
Antoine Béchupochaise.
Alors, je suis pas sûr qu'on ait la prétention de réinventer toute notre alimentation et de surtout reproduire le vivant. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est des alternatives qui permettent à chacun de réduire sa consommation de viande. C'est très lié à des habitudes alimentaires, hein, parce que finalement, on parle de cette construction alimentaire, mais concrètement, ça se retrouve dans nos habitudes au quotidien. Et on se rend bien compte aujourd'hui que c'est pas forcément évident pour tout le monde de réduire sa consommation de viande. Très souvent, c'est un frein qui est lié au goût. On a envie de retrouver le goût de la viande. On a envie de le retrouver dans nos recettes parce qu'on a encore plus en France un patrimoine culinaire hyper fort, hyper important. Aujourd'hui, enfin, on est dans une démarche qui est complémentaire. Et effectivement, des produits, il en existe plein, très différents. Nous, en tout cas, on prend vraiment du temps à les fabriquer et à se dire qu'à l'intérieur, on a des ingrédients qui sont sains. Oui, c'est des ingrédients qu'on va derrière avoir des produits qui sont riches en protéines, qui sont sources de fibres, qui sont plus faibles en gras saturé que par exemple la viande, effectivement, il y a sûrement plein de gens qui font et qui fabriquent aujourd'hui de l'alimentation, mais nous, ce qu'on a envie vraiment de proposer, c'est quelque chose qui soit sain pour tout un chacun.
Et pourquoi il faut que ça ressemble vraiment à de la viande? Par exemple, je lisais dans la composition que vous ajoutez du jus de betterave pour la couleur rouge sang, pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un steak saignant. C'est pas un steak, c'est pas du sang. Malgré tout, il faut qu'il y ait cet aspect-là. Pourquoi? Pourquoi cette imitation ou ce camouflage?
Parce qu'on s'est rendu compte que effectivement la simple galette de lentilles, la légumineuse qu'on connaît depuis déjà un moment, hein, qu'on peut même reproduire facilement chez soi, elle avait pas réussi à convaincre un bon tas de personnes et qui n'arrivaient pas justement à switcher avec ce type d'alternative et qui voulaient en fait garder le plaisir de la viande. Et c'est un peu la promesse qu'on a envie d'offrir avec nos produits. C'est que quand on goûte ces pâtes bolo, on n'y voit pas de différence. Et donc, nos habitudes alimentaires, elles ne sont pas tant bouleversées. Et on le voit, ça nous permet De convaincre un certain nombre de personnes.
Enfin, pas de différence. Arnaud Daga a quand même tout de suite reconnu ce qui était de la fausse viande, de la vraie viande.
Je dois dire que ce qui n'est pas de la viande, là, est meilleur que la viande. Hein.
Ah.
Non, mais c'est meilleur au goût.
C'est important
non,
quand même.
Bien sûr que c'est intéressant. Mais la cuisine, c'est quelque chose d'intéressant en soi. Et le goût des gens.
Donc la fausse viande a meilleur. Enfin, en tout cas, bolognaise avec la fausse viande a meilleur goût que la bolognaise avec la vraie viande.
Cette viande hachée là, cuite comme ça, avec cet assaisonnement là, est moins bonne que cette protéine végétale avec cet assaisonnement et cuite comme ça. Et je parle de deux cas particuliers, et je pense que c'est pas un hasard, peut-être non plus, si on sait pas, on n'a pas pris la meilleure boulot du monde pour aller concurrencer. Et surtout, comparaison n'est pas raison. Ce que je veux dire là, c'est que on peut très bien faire, et moi je suis très content de voir arriver des produits qui sont à base de légumineuses, ne serait-ce que parce qu'on en manque dans nos cultures et qu'il faut les valoriser de mieux en mieux. Et je pense que, comme vous le savez, c'est un ensemble de cultures qui servent beaucoup aux paysans aujourd'hui. Vous savez que tous les progrès de l'agriculture aujourd'hui viennent des paysans. Hein. Ils commencent à travailler avec les scientifiques un peu la main dans la main, et ça c'est un progrès énorme. Et c'est vrai que les légumineuses, c'est fondamental dans l'agriculture qui vient. Il y a un autre truc qui est fondamental, et vous allez voir que ça nous intéresse là, dans l'agriculture qui vient, c'est ce qu'on appelle cet équilibre agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire la bonne mesure d'animaux vivant au milieu de la bonne mesure d'arbres, au milieu de la bonne mesure de culture annuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Cet équilibre-là va décider, lui, de la quantité de viande qu'on aura à notre disposition. Ça, c'est sûr. Et à terme, on ne pourra pas faire autrement.
L'avenir du steak est-il végétal ? C'est la question qu'on posera aussi dans quelques instants au syndicat agricole FNSEA qui ne voit pas d'un très bon œil, évidemment, cette simili-viande. Vous êtes bien sur France Inter et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Keep me wrong from right, but I don't like when my better side takes hold of me.
la britannique Joy Croc, c'est ce titre, Feel Don't Fail Me Now. C'est Thierry Dupin qui choisit la musique. Stéphane Ranxin réalise l'émission avec la technique. Alix Barrois, Mathieu Bellini, Thomas Gentil et Sophie Perroguet m'ont aidé à la préparer. Merci à vous tous.
Le débat de midi, à retrouver pendant tout l'été à midi sur France Inter et en podcast sur franceinter.fr.
Et pendant le disque, pour ne rien vous cacher, Arnaud Daguin s'est mis à goûter deux hot dogs, l'un avec une saucisse végétale, l'autre avec une saucisse qui n'est pas végétale, une vraie saucisse. On attend évidemment votre verdict, Arnaud. Quatre invités pour s'intéresser aujourd'hui à la viande végétale, comme on dit. Angélique Houlbert qui est diététicienne, Arnaud Daguin donc est ancien chef étoilé, Antoine Béchu-Pochès, directeur marketing et communication chez Les Nouveaux Fermiers, et puis également Étienne Gagneron de la FNSEA nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même éleveur en agriculture biologique. Quel regard vous portez sur cette viande végétale, vous qui êtes éleveur de charolaise dans le Cher, Étienne Gagneron?
Bon, on le regarde avec un regard un peu agacé parfois, parce que autant c'est important d'avoir un équilibre de notre bol alimentaire et que le sujet des légumineuses, des protéagineux et tout ça est un sujet super important, autant la tech food et les produits ultra transformés ne sont pas une vraiment bonne solution, et que nos produits issus d'élevage, notamment élevage français, sont quand même des produits d'une grande pureté qu'on peut consommer avec pratiquement aucune transformation. Hein. Vous mangez un steak, vous le mettez directement dans la poêle, il n'y a rien de rajouté, c'est des protéines excellentes. C'est très très bon pour plein de choses et c'est aussi très très simple. Donc il faut... Bon, je crois qu'il faut prendre un peu de recul. Aujourd'hui, il y a des gens qui profitent du mouvement végan qui se développe un petit peu pour essayer de passer de nouveaux produits avec cette technologie et puis ces financements qui arrivent massivement des États-Unis, notamment des GAFAM. Bon, tout ça est quand même un peu gros, cousu de fil blanc. La grosse industrie agroalimentaire qui a fait ses choux gras de l'élevage pendant des décennies est aujourd'hui en train d'essayer de vouloir faire ses choux gras avec de nouvelles méthodes. Bon, ça nous amuse pas trop, quoi.
Antoine Béchu-Bochez.
Je suis pas sûr que ça soit du chou gras. Je pense que c'est une nouvelle manière pour le coup de proposer les protéines végétales et qu'on le sait, hein, qui viennent de la terre et qui sont une super alternative. C'est sûr que ça peut encore être un produit et des produits qui sont nouveaux, donc ça fait peur, hein, la nouveauté, l'innovation, parfois ça questionne, on connaît pas, et surtout quand on touche à quelque chose qui est lié à ce qu'on mange, ce qu'on ingère dans notre corps, et on peut comprendre complètement que c'est encore quelque chose qui va mettre du temps à prendre sa place. Et nous, c'est une manière en tout cas qu'on a trouvé de les proposer dans une alimentation qui effectivement doit rester équilibrée et qui n'est pas en opposition totale avec l'alimentation d'aujourd'hui.
Vous n'êtes pas le seul, hein, Étienne Gagneron. Enfin, quand je dis vous, c'est le syndicat que vous représentez. La FNSEA n'est pas le seul syndicat à pointer du doigt, notamment l'entreprise les Nouveaux Fermiers, puisque récemment la Confédération paysanne a déposé plainte contre l'entreprise pour tromperie à cause de ce nom Nouveaux Fermiers. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un fermier ?
Je suis complètement d'accord avec cette analyse, c'est-à-dire qu'il y a usurpation du mot fermier de toute façon, et toute la sémantique utilisée autour de la viande, donc steak végétal, qui envoie du steak, une viande 100% à base de plantes, en passant à la viande végétale, déjà, c'est pas une bonne utilisation, on ne devrait pas. Tout ce qui est saucisse, tout ça, nous on sera très vigilants sur l'utilisation des termes, hein, il y a un projet de loi au Sénat pour encadrer beaucoup plus ça. Voilà, je pense que effectivement, ce qui est nouveau peut faire peur, mais nous, on n'a pas du tout peur de l'innovation. Au contraire, ce qu'on veut pas, c'est qu'on mente aux consommateurs en leur disant que c'est super pour la planète, alors que c'est des produits très transformés et que pour leur donner du goût, il faut mélanger plein d'ingrédients pour faire de la super cuisine, de la cuisine tech. Et nous, on dit qu'on peut faire des choses beaucoup plus simples, de très meilleure qualité et qui respectent d'autant plus la planète. Enfin, je rappelle quand même qu'en France, une grande partie de l'élevage, notamment ruminant, les gros bovins, les ovins, les caprins, une grande partie vont à l'herbe. Ça représente plus de 10 millions d'hectares d'herbe. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est 20 millions de terrains de football. Donc, ce sont des surfaces énormes qui aménagent le territoire. Et Arnaud Daguin l'a bien expliqué. C'est cet équilibre entre les animaux, les prairies, les arbres, le paysage. qui maintiennent un certain nombre de choses qui sont fondamentales, notamment pour la captation de carbone et pour essayer de gérer un petit peu mieux le réchauffement climatique. Donc, faut pas dire qu'en arrêtant de manger de la viande issue d'élevages respectueux de l'environnement, on va sauver la planète. C'est même le contraire. Je rappelle quand même que les prairies, c'est la seule véritable activité qui capte du carbone toute l'année.
Enfin, en même temps, on sait aussi que pour produire un kilo de viande rouge, il faut 15 000 litres d'eau, alors que pour produire un kilo de légumineuses, il faut 1 500 litres.
Ça, c'est quelque chose que j'étais un des premiers à dire, et je m'en mords les doigts aujourd'hui, parce que, non pas que ça soit pas vrai, parce que quelque part, et dans certains systèmes d'élevage, ça peut l'être, mais il n'y a pas deux systèmes d'élevage semblables, et il faut savoir de quoi on parle quand on parle justement de la viande ou des animaux. Et cette consommation d'eau, là, elle n'est pas du tout celle que vous dites quand on parle, par exemple, d'animaux qui sont élevés en pâturage tournant dynamique, comme ça sera le cas un peu partout bientôt, parce que c'est la façon la plus intelligente, à notre connaissance aujourd'hui, d'élever des animaux. Et c'est vrai que ce souci de ne plus manger de viande, en soi, il nous est arrivé des États-Unis, et notamment parce qu'aux États-Unis, la plupart des viandes qu'on mange sont issues d'élevages qui n'ont rien à voir avec ça. Ce sont des feedlots, ce sont des choses qui sont extrêmement émettrices de carbone et qui dégénèrent le milieu. Nous, on a besoin d'une agriculture qui régénère le milieu, et un certain élevage, quand c'est
et donc,
fait l'élevage... comme il faut, le fait.
L'élevage, notamment de vaches, oui. Pour de la viande rouge, oui, peut oui. régénérer le
mais,
milieu.
Mais non seulement il peut, mais c'est une partie très 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 importante de ce qu'on commence à apprendre aujourd'hui. Enfin, je dis commence, c'est peut-être pas sympa pour ceux qui sont les pionniers de ça depuis 30 ans, ou plus, mais ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice aujourd'hui, l'agriculture de régénération, c'est une agriculture qui inclut des animaux, et de fait, qui inclut la bonne proportion d'animaux. C'est cet équilibre dont je parlais tout à l'heure qui est la règle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des produits intéressants avec des légumineuses. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'on fasse des saucisses avec des légumineuses. Simplement, je veux évidemment me rendre compte de comment c'est fait, de ce qu'il y a là-dedans. Et est-ce que ça vient d'un cheminement qui est matriciel, ou est-ce que c'est, encore une fois, comme la plupart de nos produits ultra transformés aujourd'hui, un éclatement en fragments et composés et une recomposition en fonction de ce qu'on veut obtenir.
Vous ne nous avez pas dit d'ailleurs pour les hot dogs alors?
Alors, d'abord, ils ont été faits avec beaucoup de soin. Ils sont très bons, absolument. Et les deux, dans leur style, les deux saucisses sont bonnes. La saucisse de viande est bonne. Et la saucisse pas de viande est bonne aussi.
Et à nouveau, vous avez différencié la saucisse de viande et celle qui n'est pas de viande.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a, alors là, pour le coup, comme c'est bien grillé, hein, c'est pas comme la bolo, il y a ce côté sapidité. Il y a, vous savez, cette réaction de Maillard qu'on a du mal à obtenir quand même avec le végétal. On peut, hein. Moi, je m'y amuse assez souvent avec des courges, notamment. On peut faire des steaks de courges bien saisi, et ça peut aller jusqu'à un petit caramel comme ça. Mais c'est vrai que là, on reconnaît mieux le viandard du pas viandard grâce à cette stratification des protéines, là, cette réaction de Maillard. Voilà.
Antoine Béchu-Bochez, vous dites que vos productions, c'est 11 fois moins de CO2, 10 fois moins d'eau consommée.
Que quoi?
Non, mais effectivement que la viande, et en fait, on tient à redire quand même que 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde viennent de l'élevage. Je veux dire,
mais pas du nôtre. Désolé.
Mais bien sûr que si.
Bien sûr que non.
Un quart,
on ne peut pas vous laisser dire ça.
Un quart de soja aujourd'hui.
Beaucoup entendu, laissons parler un petit peu Antoine. Oui, et vous pourrez répondre.
Mais ce n'est pas nous qui le disons. C'est-à-dire qu'un quart du soja aujourd'hui qui est utilisé pour nourrir les animaux cause la déforestation à l'autre bout du monde, et ça, enfin, c'est une réalité. On est tout à fait d'accord hein, que il y a une vraie histoire à recréer, que pour le coup, la protéine végétale, celle que nous on utilise, celle qui est cultivée et qui va être de plus en plus cultivée, hein, parce que il y a un vrai plan protéine végétale en France qui est mené par toute une filière aujourd'hui, et aussi une solution pour capter l'azote. Et ça, c'est un vrai projet. Et c'est dans ça qu'on s'inscrit. Donc non, honnêtement, il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village quand même. Je veux dire, ça fait longtemps, et c'est pas nous qui le disons, c'est les scientifiques, que l'impact de la viande sur la planète comme sur notre santé, il est pas négligeable. Et qu'aujourd'hui, on pourra parler effectivement de différents types de viande. Et il y a des gens qui font ça très très bien, on est bien d'accord, mais ce qui est aujourd'hui aussi dans nos supermarchés et ce qui nourrit une grande partie des Français ne répond pas forcément encore à ces impératifs et à ces enjeux écologiques et sanitaires qu'on peut avoir.
Je suis d'accord avec ça. Moi, il y a énormément de steaks hachés que je virerais immédiatement des rayons, mais absolument. Mais il s'avère que ça, c'est quand on importe vous savez qu'on importe de l'émission de carbone, on importe de la pollution, on importe de la déforestation. Je parle pas de ça. Moi, je parle d'un pays qui fonctionne avec un équilibre agricole et dans lequel l'élevage joue un vrai rôle. Et c'est cette part d'élevage-là dont on va avoir besoin.
Voilà. Ça pose aussi la question. Ça pose aussi la question, Angélie Coulbert, de manger de la viande ou ne pas manger de la viande. Est-ce que le corps humain peut se passer de viande? Vous qui êtes diététicienne et nutritionniste.
Alors, en effet, on sait de toute façon que le corps peut se passer de viande, même si génétiquement on est programmé pour en consommer. On est des chasseurs-cueilleurs à la base. En effet, on a des gens qui sont végétariens ou véganes depuis de nombreuses années. Et on arrive plus ou moins à les équilibrer. Les véganes, c'est un peu plus compliqué. On est obligé de les supplémenter en certaines vitamines, notamment vitamine B12. Mais bon, on peut y arriver. Il est tout à fait possible d'avoir une alimentation équilibrée. Avec, comme on disait, des légumineuses, des céréales. On n'a pas parlé des oléagineux en plus, des noix, des noisettes qu'on a dans nos jardins. Et ça aussi, c'est riche en protéines. Et voilà, là, on peut effectivement avoir une alimentation 100% végétale et équilibrée. Voilà, bon, je vous dis, effectivement, pour les véganes qui sont 100% avec des végétaux, on n'a pas de laitage. En effet, on est obligé de supplémenter un peu, mais sinon, on peut y arriver. Voilà, je pense qu'on parle plus, on bascule pas dans les extrêmes. Là, on parle de flexitariens. Les flexitariens, c'est nous. On tend effectivement à consommer moins de produits animaux, plus de avoir une alimentation plus végétale. C'est une très bonne idée et les recommandations sont dans ce sens. Donc ça, bien sûr. Mais comment on le fait? Voilà. Est-ce que justement, on utilise ces aliments qui sont ultra transformés, ou est-ce qu'on reste sur de vrais aliments, pas faits uniquement d'ingrédients, quoi?
Alors, il se trouve que ces aliments arrivent dans un contexte particulier, qui est celui de la baisse du marché de la viande, en tout cas de la production. La FAO a estimé à 333 millions de tonnes de viande pour l'année 2020, une baisse d'environ 2%, Étienne Gagneron, de la FNSEA.
Oui, alors après, nous on sait par exemple qu'en France, la consommation, elle baisse pas tant que ça, puisque notamment le hamburger, tout ce qui est dans les fast-foods, est plébiscité par les jeunes. Donc ces chiffres, il faut les prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a quand même une grande partie de la planète où ce sont des petits éleveurs qui ne vivent qu'avec quelques animaux et des cultures vivrières. Donc de toute façon, l'élevage et la viande est la principale source de revenus et d'alimentation de beaucoup de populations dans le monde. Donc prudence. Après, l'enjeu quand même majeur que nous on voit, parce qu'il n'y a pas du tout d'ostracisme contre l'utilisation de plus de végétaux dans notre alimentation. Au contraire, il y a la possibilité de développer donc tout ce qui est oléoprotéagineux. Ça a été dit, il faut le répéter. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que bon, moi je suis en bio depuis 24 ans et je cultive beaucoup de protéagineux sur ma ferme. Il n'y a eu aucune recherche variétale depuis 20 ans sur le lupin, sur plein de cultures qui sont essentielles justement pour recréer des équilibres et capter de l'azote. Et aujourd'hui, on dit aux agriculteurs, allez-y, faites des protéagineux. Cette année, avec le climat qu'on a, c'est une catastrophe. Les gens n'arrivent pas à récolter, tout est pourri au sol. C'est très compliqué, beaucoup plus compliqué de faire des protéagineux que de faire, par exemple, des céréales. Donc, on peut pas dire aux gens, il faut tout changer. Alors que personne n'a anticipé et construit les programmes de recherche qui permettraient justement à bien gérer ces transitions.
Antoine Béchu-Bochet, je vous vois hocher la tête.
Ouais, on est complètement d'accord. C'est justement un travail qu'on doit faire collectivement avec toute une filière. Il y a eu annoncé, en tout cas, dans le plan de relance, énormément d'investissements qui sont liés et à l'innovation, ce qui nous touche le plus, mais aussi justement comment faire de notre pays qui est un pays céréalier assez ancré depuis longtemps, comment passer d'ici les 10 prochaines années à beaucoup plus de cultures sur les légumineuses, les oléagineux, et comment est-ce qu'on peut y arriver, et je pense que c'est justement quelque chose d'assez vertueux à construire ensemble.
Alors que la baisse de consommation de viande, et notamment de viande rouge, baisse, c'est plutôt une bonne chose pour le corps humain, Angélique Houlbert. Parce qu'on est foutu, on mange trop, comme dit la chanson.
Bon, alors moi, j'ai un autre message, c'est plutôt manger moins, mais manger mieux. Hein. Donc là, on n'arrête pas de le dire, effectivement, depuis tout à l'heure, mais... C'est un peu ça, c'est ok, manger de la viande et même de la viande rouge, mais meilleure, comme on disait tout à l'heure, avec des animaux vraiment que l'on respecte, avec l'environnement également. Donc ça, c'est plutôt dans ce sens-là. On a vraiment plusieurs catégories de personnes. On a des hyper-viandards, évidemment, qui vont vous consommer de la viande rouge tous les midis sous prétexte que voilà, il y a que comme ça qu'ils pourront être en forme. Et puis on a des gens qui sont beaucoup plus raisonnables. Je crois que la consommation de viande rouge, enfin clairement, voilà, on fait quand même de plus en plus attention depuis des dizaines d'années quand même à bien varier entre des viandes rouges, entre des volailles. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Alors certes, dans la viande rouge, on a du fer. Le fer, il est important pour certaines catégories de la population, les jeunes filles qui ont des règles très abondantes, voilà, les femmes en âge de procréer. C'est vrai que c'est moins intéressant chez une femme ménopausée ou chez un homme parce qu'on en a déjà trop, voilà, et que le fer est pro-oxydant. En fait, il va favoriser l'oxydation, et c'est pas forcément ce qu'on recherche pour une bonne santé. Mais en même temps, voilà, on a quand même des personnes qui ont besoin de ce fer. Donc là, on ne parle pas de protéines, on parle vraiment du fer qu'il peut y avoir dans la viande rouge, de la B12 aussi. Voilà, donc c'est, faut pas tirer, clairement, il ne faut vraiment pas tirer à boulet rouge.
D'accord,
sur,
donc il y a du bon aussi dans la viande rouge.
Voilà.
Voilà, moins trop d'en faut, mais il y a du bon. L'avenir de la viande passe-t-il par le végétal? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le débat de midi. Un débat qu'on continue en musique avec l'Impératrice. Vous êtes bien sur France Inter, c'est l'été. Enfin, presque, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force de croire, j'oublie que ce monde est faux. Pour ne pas mourir sur ta toile, j'ai fait mettre à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, évidemment. Identique, c'est la photocode. On ne peut compter que sur mon doigt. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller, mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. Car à force d'y croire, j'oublie que ce monde est faux. Les gens qui se brisent, personne.
L'Impératrice, un collectif de 6 musiciens. Le titre, c'est Hématome. Et toute la playlist est à retrouver sur le site de France Inter.
Thomas Chauvineau, le débat de midi.
L'avenir du steak est-il végétal? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Antoine Béchu-Pochaise, qui est directeur marketing des Nouveaux Fermiers. C'est une entreprise qui fabrique donc des produits simili-carnés. Arnaud Daguin, que vous connaissez bien, qu'on entend régulièrement dans On va déguster. Angélique Coulbard, qui est diététicienne. Et Étienne Gagneron, qui est vice-président de la FNSEA, éleveur de vaches charolaises, éleveur biologique, en agriculture biologique, je le précise. Il y a une étude du cabinet de conseil américain IT Kearney qui dit que en 2040, 60% de la viande que nous mangerons ne sera plus issue d'animaux. Est-ce que c'est une étude sur laquelle vous vous fondez, Antoine Béchu-Pochaise ?
Alors, c'est des études qu'on regarde comme plein d'autres. Nous, on a plutôt tendance à regarder aussi des études sur les enjeux environnementaux. C'est ça qui nous guide et qui nous drive un peu. Nous, on s'est vraiment dit, et pour revenir un peu tout à l'heure sur... Est-ce que c'est la fin de la viande? Non, c'est sûrement pas la fin de la viande. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on prône aujourd'hui. Mais c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive justement à aider tout un tas de gens à réduire sa consommation de viande, à équilibrer. Et on sait, hein, et on le voit tous les jours, tous les consommateurs qu'on rencontre, que ça soit dans les restaurants partenaires dans lesquels on est présent, que ça soit dans les magasins. On discute avec énormément de gens qui sont curieux de tester et parce qu'ils ont envie de garder ce plaisir et que c'est pas si facile de changer son alimentation, de casser des habitudes, de se repérer aussi dans tout ce qui peut être proposé dans un supermarché. Et voilà, on a cette démarche alimentaire qui est avant tout gourmande, je dirais. Et je pense qu'on a réussi à le prouver quand même sur cette émission. Et puis quelque chose de positif et pour notre santé et pour la planète.
Mais on le voit, enfin, est-ce que c'est un mouvement de fond, selon vous, Étienne Gagneron? Bill Gates a lancé sa propre marque, Richard Branson a lancé sa marque également, les Nouveaux Fermiers, ici présents, sont soutenus, entre autres, par Xavier Niel. Est-ce qu'il y a pour vous, Étienne Gagneron, de la FNSEA, un mouvement de fond?
Alors, il y a un mouvement, hein, je ne sais pas si c'est un mouvement de fond, qui va dans ce sens, hein, je le disais tout à l'heure, hein, les GAFAM ont investi de manière considérable pour aller vers cette food tech, ce qui fait un peu peur parce que en définitive, je pense pas que la majorité des consommateurs soient intéressés par des produits ultra transformés avec des produits qui viennent d'un peu partout. Parce que je rappelle quand même qu'il y a un sujet autour de l'élevage, c'est qu'aujourd'hui les consommateurs souhaitent la relocalisation de leur alimentation. Et moi qui travaille dans un magasin de producteurs, dans un collectif, les produits animaux, on en a toute l'année, entre les fromages, le mouton, le bœuf, le veau, et on arrive à produire toute l'année très facilement en circuit très court. Par contre, notre seul souci, ce sont les végétaux, notamment les légumes, puisqu'on en a qu'une toute petite partie de l'année. Et on a une vraie difficulté à pouvoir organiser notre planning d'une alimentation de proximité régulière tout au long de l'année. Et seul l'élevage, en termes de proximité, permet justement d'échelonner la production et d'amener des produits de bonne qualité tout le temps aux consommateurs.
Mais l'élevage a quand même été entaché cette année, l'année dernière également, hein, par des scandales qu'on a pu voir dans les abattoirs.
Bon, il y a toujours, de toute façon, des reprises médiatiques, notamment avec des activistes qui utilisent les 0,5% de situations qui se passent mal pour les mettre en
avant.
Vous
êtes sûr de votre chiffre, 0,5%?
Ce qui est important, surtout, c'est que les gens ils consomment mieux de la viande. Aujourd'hui, dans la restauration collective, il y a 60 à 70% de volaille qui est de la volaille importée, qui arrive de pays dont on sait très bien que les conditions de production sont pas les mêmes qu'en France. Donc, consommer déjà mieux de la viande, vérifier l'origine et puis essayer de soutenir notre élevage français qui, on le disait tout à l'heure avec Arnaud Daguin, est en train de maintenir ces systèmes herbagers qui sont vraiment très intéressants pour la planète et pour l'avenir de la planète.
En tout cas, ce qu'on peut voir dans les supermarchés, c'est votre spécialité, Angélique Houlbert, diététicienne nutritionniste, c'est la multiplication des offres, hein, une offre qui s'est élargie considérablement. On trouve donc des steaks
à griller, des escalopes, des cordons bleus, des nuggets, des saucisses, on l'a dit, des émincés qui imitent le lardon. L'offre s'est vraiment étoffée.
L'offre s'est vraiment étoffée et moi je voulais aussi moi j'ai beaucoup de patients qui me disent ces produits-là de toute façon on leur fait confiance parce que on a un Nutri-Score qui est assez intéressant, c'est un Nutri-Score A et donc du coup c'est forcément bon pour ma santé. Et ça je sais pas si vous vouliez en parler mais comme on parle dans les rayons puisque du coup on les voit en gros c'est marqué en gros ce Nutri-Score en gros sur le devant de l'emballage. Il faut vraiment justement dire aux consommateurs que c'est qu'un indicateur nutritionnel. Donc, ça prend en compte que les calories, les graisses, le sucre, le sel, les fibres, les protéines. Si on prend un steak haché classique, 5% de matière grasse, le Nutri-Score, c'est A aussi. Donc, enfin... Il faut juste faire attention. Là, ce Nutri-Score, il ne tient pas en compte de la liste des ingrédients, comme on disait tout à l'heure. Donc, en fait, on peut avoir un produit ultra transformé avec un Nutri-Score A. Donc, même évidemment, on en trouve effectivement plein dans les rayons avec plus ou moins des Nutri-Score.
C'est le cas de celui que j'ai dans la main, en tout cas, hein, ce paquet aiguillette végétale à la thaïlandaise Nutri-Score A.
Oui. Alors, faites attention parce que justement, ce Nutri-Score A, oui, parce que alors. Parce qu'il y a beaucoup de protéines, certes, puisque, comme on a dit tout à l'heure, ce ne sont que des protéines de pois ou de soja. Donc oui, c'est sûr que voilà, ça monte le score. Il y a des ajouts de fibres. Donc oui. Alors, je vous rappelle que dans la viande, il n'y a pas trop de fibres. Hein, donc là, oui. Donc effectivement, le Nutri-Score est un peu mieux. Mais faites attention parce que souvent, on n'a pas abordé le problème du sel. Mais dans tous ces produits-là, on a des teneurs en sel qui sont généralement supérieurs à 1 gramme, voire un gramme.
Mais est-ce que vous le conseillez ou vous le déconseillez à vos patients?
Ça, mais alors je le déconseille, parce qu'en fait là, on est parfois plus avec des chips. On n'a pas, comme on disait tout à l'heure, on a que des ingrédients issus du cracking le plus souvent. Enfin, vraiment pour avoir arpenté les rayons, surtout ces rayons-là, pour vraiment tout décrypter. Oui, on retrouve énormément de protéines de soja, d'ajouts de fibres, d'ajouts de méthylcellulose, etc. Voilà, on est parfois plus proche de la chimie. Alors, pas forcément chez les nouveaux fermiers, mais dans des grosses marques que je ne citerai pas, on est parfois plus près de la chimie que de la vraie alimentation, quoi. Donc bien sûr, que je les déconseille.
Oui, je partage complètement cet avis. Je pense aujourd'hui qu'on a à faire attention à notre alimentation en termes de, on va dire, de santé unique. Et donc, faut qu'on soit à peu près sûr que ce qu'on mange est issu d'un sol en bonne santé, de plantes en bonne santé, d'animaux en bonne santé, s'il y en a, pour nous mettre nous-mêmes en bonne santé, nos territoires avec. C'est ça l'histoire, c'est qu'est-ce qui régénère et qu'est-ce qui dégénère. Voilà, c'est soyons régénératifs.
Antoine Béchu-Bochez, un mot de conclusion.
Je pense que oui, effectivement, il y a plein d'offres sur le marché et qu'on essaye, en tout cas nous, le faire au mieux. Je pense que c'est quand même ces indicateurs, ils sont là pour aider le consommateur et je suis pas sûr qu'on détruise maintenant aujourd'hui le Nutri-Score ou même des applications comme Yuka sur lequel nous on est vert et que en fait les produits, on parle souvent des produits ultra transformés. En fait, l'impact il est surtout lié aux glucides et nous on n'en a pas dans nos produits. Donc voilà, faut faire la part des choses et voir quand même le positif, sinon on ne serait pas là pour le proposer.
Merci à tous les quatre d'avoir été là aujourd'hui. Le débat de midi, c'est fini, mais on se retrouve demain. On s'intéressera au règne du petit commentaire, ces petites phrases, ces idées qui doivent s'exprimer en 280 signes. Le petit commentaire a-t-il vaincu l'analyse? C'est le menu de demain et on attend déjà vos réactions sur franceinter.fr et vous avez le droit de faire plus de 280 signes.